suis entièrement d'accord avec Édouard Brunner sur la question de sur son ce qu'il a dit sur le fait qu'il n'est pas très utile de se disputer pour savoir si c'est d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre qu'on a inventé les droits de l'homme et là troisième corbeille, il y a suffisamment de communautés de sentiments, de communautés d'esprit entre les démocraties européennes et la démocratie américaine pour qu'il y ait un vrai free flow de pensées et d'idées dans les années qui ont précédé la conférence et d'autre part, la diplomatie n'est pas un système dans lequel les choses peuvent se scinder arbitrairement. Il n'y a pas de cut-off date à partir de laquelle le human rights ou la troisième corbeille, le free flow of information, sont devenus une partie de l'agenda occidental pour la conférence. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Une idée apparaît et puis on la met en doute, on hésite, elle disparaît, elle réapparaît de portée par un autre pays. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé de façon beaucoup plus humaine et beaucoup moins rigide que de telle sorte qu'il me paraît tout à fait inutile de décider que c'est à partir de tel communiqué de l'OTAN ou à partir de telle réunion européenne que véritablement la troisième corbeille des droits de l'homme sont entrées dans notre arsenal. Par exemple, nous, je crois que nous avons beaucoup travaillé pour ces idées. Il n'empêche que pour des raisons de politique intérieure, de conjoncture, de sensibilité, de crainte de certaines répercussions sur nos relations avec l'Union soviétique, par exemple, à un certain moment, nous nous sommes battus contre l'idée d'afficher le mot « freer movement », mais ça ne veut pas dire que nous étions contre l'idée, ça veut dire simplement que nous avions une position différente sur la présentation. Donc toutes ces choses sont beaucoup plus complexes qu'on le croit, et il n'est pas très utile de s'acharner à décider qui était le premier. J'ajouterais dans cet esprit deux remarques. Si quand même il y a une antériorité sur la troisième corbeille, c'est tout simplement 1955, parce qu'en 1955 il y a eu une conférence à quatre au sommet, et suivie d'une conférence des ministres des Affaires étrangères, et il y avait, ceci paraît bizarre aujourd'hui, mais il y avait un point à l'ordre du jour sur la situation en Europe de l'Est, et sous ce point, les trois occidentaux ont proposé des sujets tels que l'arrêt du brouillage des émissions radio, le statut des journalistes étrangers, les contacts humains, etc. Tout ça était déjà en 55. Ceci a été écarté d'un revers de la main par la délégation soviétique, et je dois dire que les occidentaux n'ont pas insisté, mais vous trouverez dans les documents de 1955 toute l'essence de la troisième corbeille, enfin en tout cas une grande partie. Le deuxième point sur le même sujet, c'est que moi je suis tout à fait d'accord avec le livre de M. Thomas que M. Masny vient de signaler, que j'ai lu personnellement, dans lequel il dit en appliquant une théorie qui bizarrement il appelle constructiviste, je ne sais pas trop pourquoi, ou constructionniste ou constructiviste, il dit que si les Européens de l'Ouest ont insisté sur cette affaire des droits de l'homme, c'est parce que c'était pour eux une espèce de signature identitaire. Et en tant que communauté européenne, que la communauté européenne, après tout, il fallait bien la définir, c'est pas seulement un marché commun, il fallait la définir idéologiquement, et les droits de l'homme jouaient un rôle là, et j'ai des citations, par exemple du Premier ministre ou du ministre des Affaires étrangères, je ne me souviens plus, des Pays-Bas, par exemple, qui dit explicitement cela. Il dit, à Helsinki, nous devons insister sur les droits de l'homme parce que c'est notre signature, c'est notre identité politique. Et on se réfère, encore pendant que la conférence de Genève fonctionne, est en fonction, on se réfère à ce que les NEF avaient publié à Copenhague en 1973, qu'on appelle appelle, qui est un document tout à fait oublié maintenant, qu'on appelle le document la déclaration sur l'identité européenne. Et dans la déclaration sur l'identité européenne, on trouve cette idée que la communauté européenne a une identité qui est notamment définie par les droits de l'homme. Voilà essentiellement ce que je voulais dire. Sur le reste, je serais intéressé parce que mon ami Yuri Dubinin dira sur la détente militaire. Ah oui, je voudrais ajouter, si j'ai encore une minute, je voudrais ajouter un autre point. On a parlé de la discipline ou du manque de discipline dans les pays du pacte de Varsovie, etc. Je suis d'accord avec l'évaluation d'Edouard, qu'il n'y a pas eu de signes très visibles de dispute entre les Polonais, les Hongrois, les Soviétiques, etc. En tout cas, ça n'apparaissait pas beaucoup. Ce que je voudrais souligner, c'est autre chose, c'est un peu l'autre aspect, l'autre côté de la médaille, c'est que si l'on admet que, ce qui reste d'ailleurs à accepter, mais enfin ça supposait que l'on admette que l'un des buts de l'Union soviétique pouvait être de se présenter avec ses alliés comme un bloc, et en revanche de jouer sur les divisions de l'autre partie, c'est-à-dire essentiellement des Occidentaux, par exemple de jouer sur des divisions entre les États-Unis et les Européens, la France et les États-Unis, que sais-je, etc. Le calcul, si ce calcul a été celui des Soviétiques, par hypothèse, ce calcul a été erroné, car bien loin de semer la division, la conférence a solidifié les Occidentaux, les a rapprochés les uns des autres. Je donne un exemple très simple. La France de l'époque, le gouvernement français de l'époque, avait une espèce de problème avec la consultation politique à l'intérieur de l'OTAN. Bon. Nous avions donc une tendance, qui était d'ailleurs à mon avis tout à fait irrationnelle et tout à fait contradictoire, une tendance à considérer que la France pouvait définir sa politique par des consultations entre les neuf, mais ne pas se prêter à une consultation à l'intérieur de l'OTAN, ce qui était évidemment ridicule, puisqu'on ne pouvait pas avoir l'un sans l'autre. Et justement, à la CSCE, quand je suis arrivé là-bas à Tripoli, l'ambassadeur André et moi-même, nous avons dit, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des caucus de l'OTAN, est-ce que nous y allons? Et nous avons dit, naturellement, nous y allons. Nous sommes membres de l'Alliance Atlantique, nous allons au caucus de l'OTAN. Nous n'avons pas demandé l'autorisation de Paris. Et à Paris, on a froncé les sourcils. On a dit comment les Français, la délégation française à Helsinki va dans les réunions de l'OTAN. Et pourquoi pas, moi nous sommes membres de l'OTAN, j'ai travaillé pour la préparation de la conférence comme représentant adjoint à l'OTAN pendant 2 ans avec mon ami Jim Godby, naturellement. Eh bien à Paris, on trouvait que c'était un peu, c'était pas bien, parce que notre théorie c'était que la conférence ne devait pas être de bloc à bloc, donc les alliances ne devaient pas s'exprimer, ce qui n'empêchait pas le pacte de Varsovie, lui, d'être tout à fait solidaire. Alors, finalement, nous avons discuté avec Paris, on nous a dit, écoutez, à chaque fois que vous trouverez qu'il est indispensable pour la délégation d'aller à la réunion de l'OTAN, vous irez. Et nous avons donc trouvé à chaque fois qu'il y avait une réunion de l'OTAN que c'était indispensable d'y aller, et nous y sommes allés. Tout ceci pour dire simplement que si vous prenez par exemple les documents qui ont été signés, simplement, ce que les différents pays occidentaux accepter de déclarer en commun avec l'Union soviétique dans leurs documents bilatéraux dont nous avons rédigé un assez grand nombre ensemble, mon voisin et moi, c'était des choses qui étaient quand même dans l'ensemble qui étaient assez proches du vocabulaire qui était souhaité par l'Union soviétique. Et c'est vrai pour les Français, c'est vrai pour les Italiens, c'est vrai pour les Américains qui ont mis dans la déclaration Nixon-Brezhnev en 73 des choses qu'ils auraient trouvées épouvantables si c'était un autre allié qui avait signé, la coexistence pacifique et toutes ces choses-là, tout le vocabulaire soviétique. Mais une fois que nous nous sommes retrouvés ensemble à Helsinki, nous nous sommes surveillés les uns les autres, chacun regardait ce que faisait le voisin, et finalement nous avons eu une position infiniment plus réservée, plus dure vis-à-vis des demandes de l'autre camp que ça n'avait été le cas quand nous travaillions de façon dispersée, de sorte qu'on peut dire que l'Union soviétique, dans un certain sens, a rendu un grand service à l'OTAN en proposant cette conférence qui a eu pour conséquence, parmi d'autres aussi heureuses ou plus heureuses, de renforcer la cohésion de l'OTAN.